Lève-toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain, nous sommes le vendredi.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en cette année-là.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Allez, bande de voleurs.
Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini
et le maillot connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, il est 19h05 et pas de panique, le PNU Info du vendredi est bien là pour une heure d'actualité. On va commencer par le local et revenir sur les manifs, les blocages, les AG, tout ce qui a eu lieu à l'Université de Lyon suite à l'immolation d'un étudiant la semaine dernière.
Et ensuite, on va vous passer un reportage sur la mobilisation de mardi qui s'est passée devant la fac de Bron.
On parlera ensuite d'une étudiante de Lyon 2 qui a été embarquée par la police.
Et on parlera de Colomb qui est soupçonné, figurez-vous, d'emploi fictif. Et puis on vous donnera des nouvelles du collège Maurice Sève. On enchaînera ensuite.
Sur la lecture, pour poursuivre l'entretien qu'il y a eu la semaine dernière avec le collectif Collage contre les féminicides de Lyon, du coup on vous lira un texte qu'elles ont publié depuis.
Et dans la rubrique hebdomadaire sur le nucléaire, on vous parlera des centrales de Cruas du Tricastin qui sucrent les fraises.
Après le tremblement de terre, bien sûr. Et on fera un petit point sur la répression en allant au Liban, au Chili et en revenant sur les 1 an de répression du mouvement des Gilets jaunes.
Et enfin, on ira à l'international où on vous parlera de la cybernétique qui peut, a priori, peut-être casser des briques.
On terminera sur l'agenda du week-end, mais avant ceci, on écoutera un petit extrait de Damasio qui parle des algorithmes. Bonne écoute sur Radio Canu, il est 19h07.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a vu à les interjouer pendant la masse du rassemblement pour le maire de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Il y a une semaine donc, un étudiant de sciences politiques à Lyon s'est immolé devant le Crous et depuis, blocages et manifestations ont eu lieu, notamment cette semaine. On va vous donner à entendre un reportage dans quelques minutes qui a été tourné mardi devant la fac de Bron. Alors cet étudiant est encore aujourd'hui entre la vie et la mort, il est brûlé à 90% et il a rédigé un texte, une lettre très politique où il dénonce notamment la question de la précarité qui touche les étudiants et les étudiantes. Là-dessus, on pourrait rappeler que le coût de la vie étudiante a augmenté de 30% en 10 ans. À ceci s'ajoute également l'augmentation des transports, évidemment aussi des loyers. Et on peut prendre ces chiffres. Et notamment, un cinquième des étudiants et des étudiantes affirment sauter un repas chaque jour par manque d'argent. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 20% des étudiants et des étudiantes vivent sous le seuil de pauvreté. Concernant les logements, en 1960, il y avait une place au Crous pour 3 étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, il y en a une pour 16. et 100 000 logements étaient construits en 1960 au Crous. Aujourd'hui, en 2019, donc il n'y en a que 165 000, c'est-à-dire qu'en presque 60 ans, on a construit 60 000 places, alors qu'il y a plus de 2 millions d'étudiants en plus qu'en 1960. C'est vous dire un petit peu l'écart de l'offre de logement au Crous entre les années 60 et aujourd'hui. Aujourd'hui en France, donc, il y a 2,7 millions d'étudiants et d'étudiantes, dont 1,6 million qui est scolarisé à l'université, et plus de 2 millions d'entre eux ne touchent pas de bourse. Alors pour ceux pour qui c'est ric-rac, il faut travailler, il y a une augmentation du travail salarié chez ces étudiants et étudiantes, et le plus souvent c'est des petits jobs très mal payés, souvent difficiles, comme, alors on a vu fleurir ces nouveaux jobs de livreur à vélo, et puis ce plus ancien de travailler dans les fast-food ou les hypermarchés. Jeudi, c'était hier, 14 novembre, à Lyon, avait lieu donc à l'université une assemblée de lutte. Il y a plus de 800 étudiants et étudiantes qui étaient présents à l'AG, et a été réaffirmée la volonté de converger avec les autres mouvements sociaux pour la grande manif du 5 décembre, notamment donc cette manif sur la lutte la réforme des retraites, lutte également plus spécifique du secteur des cheminots, des hospitaliers qui ont défilé hier en France entière. Il y avait à peu près 2000 personnes à Lyon, ou encore les salariés de Fézin pour la région lyonnaise. Ont été également décidées hier, lors de cet AG de lutte à l'université, deux journées de mobilisation, le 18 novembre, la semaine prochaine, à Lyon, et le 26 novembre au niveau national. On vous emmène tout de suite à Nantes.
On peut aussi vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu encore une opération Crous gratuit, c'est gratuit, bon appétit, à la faculté des quais, et qu'on retrouvera un cortège d'étudiants dans la manifestation Gilets jaunes demain. Le rendez-vous est donné à 13h30 à Bellecour.
Très bien. Et donc là, tout de suite, on va devant l'université de Bron. C'était mardi. On a laissé traîner des micros. Une camarade du Canyon Info du lundi nous a envoyé ses sons. Et puis on s'est un petit peu servi également chez Radio Parleur.
Bon, on va commencer à faire nos interventions. Je vous remercie déjà toutes et tous d'être venus. J'arrive même pas à voir jusqu'où vous êtes, donc ça veut dire que vous êtes beaucoup. Ça nous touche beaucoup. On a décidé que, donc, j'imagine que vous le savez, mais on vous remercie de ne pas donner son prénom et de ne pas donner son nom en interview, en quoi que ce soit, si jamais vous faites interviewer par les journalistes, etc., pour protéger sa famille. Donc je vais lire sa lettre, le message qu'il a posté quelques instants avant de s'immoler par le feu. Ok. Bonjour. Aujourd'hui, je vais commettre l'irréparable. Si je vise donc le bâtiment du Crous à Lyon, ce n'est pas par hasard. Je vise un lieu politique, le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche, et par extension, le gouvernement. Cette année, faisant une troisième L2, je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce que c'est suffisant pour vivre? J'ai eu la chance d'avoir des personnes formidables autour de moi, ma famille et mon syndicat. Mais doit-on continuer à survivre comme nous le faisons aujourd'hui? Et après ces études, combien de temps devons-nous travailler, cotiser pour une retraite décente? Pouvons-nous cotiser avec un chômage de masse? Je reprends donc une revendication de ma fédération de syndicats aujourd'hui, avec le salaire étudiant et d'une manière plus générale, le salaire à vie, qu'on ne perde pas notre vie à la gagner. Passons à 32 heures de travail par semaine pour ne plus avoir d'incertitude vis-à-vis du chômage qui conduit des centaines de personnes comme moi chaque année à ma situation et qui meurt dans le silence le plus complet. Luttons contre la montée du fascisme qui ne fait que nous diviser et du libéralisme qui crée des inégalités. J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes d'avoir créé des peurs plus que secondaires. Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. Désolée pour l'épreuve que c'est. Au revoir.
Je suis Denis Poura, je suis enseignant à Sud Éducation Solidaire. Mais on est là suite au drame qui a eu lieu vendredi dernier. C'est pas seulement un drame, c'est une conséquence politique de la précarité généralisée à tous les étages et de la ponction des richesses qui a lieu des plus pauvres et de la plus grande partie de la population vers les plus riches. Et vendredi, on a atteint l'irréparable et c'est absolument insupportable et ça doit plus se reproduire. Et pour que ça se reproduise plus, il faut que le système change, quoi.
Justement, vendredi, ça a été quoi votre action ?
Ça a été une grande peine d'abord et une consternation puisque c'est un camarade de l'Union syndicale solidaire et mélangé à une révolte insoutenable, quoi. Même dans mon secteur, l'éducation, il y a de plus en plus de collègues qui craquent. Il y a eu, je ne sais plus combien, 52 suicides, je crois, sur l'année qui s'est passée. Les collègues contractuels sont de plus en plus nombreux. Les collègues qui démarrent ont du mal à se loger dans les agglomérations puisque les salaires sont bloqués depuis des années. Donc oui, la précarité, elle est à tous les étages. On la voit dans les territoires un petit peu partout. Moi, j'habite un peu à l'extérieur de Lyon, à la campagne. On n'a plus de poste, on n'a plus rien. Quoi.
Membres de ce bien étudiant, étudiante, et par conséquent, vous connaissez très bien notre camarade qui s'est immolé par le feu ici. Un geste désespéré qui en dit beaucoup sur la situation étudiante à l'heure actuelle. Nous pensons à notre camarade, à l'heure actuelle, encore entre la vie et la mort. Son geste, s'il reflétait la situation terrible qu'il vivait, était un geste éminemment politique, et cela il a lui-même dit. Parce qu'aujourd'hui en France, en 2019, la précarité tue encore et tous les jours. La précarité tue parce qu'elle isole, enchaîne, rend impossible une vie décente. Les choix politiques actuels sont les raisons de notre misère. Les institutions, les gouvernements sont les responsables. Nous exigeons que nos revendications soient entendues, que des travaux soient entrepris sur la question de la précarité étudiante et que des actes clairs arrive en conséquence. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour manifester notre solidarité avec notre camarade, mais aussi pour se retrouver entre nous, étudiants, étudiantes, membres du personnel, camarades de tous lieux, et créer notre colère pour dire qu'on ne lâchera pas l'affaire. Pour reprendre les mots de notre camarade, vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécurité sociale. Nous resterons présents, présentes et déterminés à ses côtés, aux côtés de tous les étudiants, toutes les étudiantes qui sont dans des situations précaires. Merci.
Vive le socialisme! Vive l'autogestion! Vive la sécu! Vive le socialisme! Vive l'autogestion! Vive la sécu! Vive le socialisme! Vive l'autogestion!
Donc, je suis Laetitia, étudiante en sciences politiques à Lyon 2. Je suis aussi militante à Solidaire étudiante Lyon. Et je suis aussi la petite amie de l'étudiant qui s'est immolé par le feu.
Comment tu vas ?
C'est compliqué. Je réalise toujours pas ce qui s'est passé. J'ai pas le temps de m'effondrer, c'est pas le moment. Il nous a demandé de continuer de lutter, moi et les camarades. Donc c'est ce qu'on va faire. Là c'est le moment pour parler, pour agir politiquement, pour faire bouger les choses. Pour moi, c'est pas le moment de m'effondrer. Et on peut rien faire pour l'instant, on peut juste lutter. Je suis assez émue, je pense pareil pour tous les camarades qu'ils connaissent, qu'il y ait autant de monde, que les gens soient. Qu'il y a plein de gens en fait qu'on ne connaisse pas et qui ne sont pas militants en fait, qui sont là. Donc on voit que ce qu'il a dit, ça résonne pour plein de gens. Et pas forcément des gens socialisés à la politique ou politisés, mais aussi à tout le monde en fait, parce que la précarité ça touche tout le monde. Donc je pense que c'est bien qu'on se rassemble pour faire bouger les choses et aussi entre nous pour parler de cette précarité et qu'on arrête de considérer ça comme normal ou honteux.
Justement, cette précarité, tu la ressens au quotidien ?
En tant que syndicaliste, oui, personnellement, moi pas trop, mais comme je dis, je normalise aussi, je suis un peu en galère, mais ça va quoi. Mais ouais, les étudiants sont, Et les étudiantes sont en galère pour trouver des logements décents. On est obligé de galérer pour manger, de sauter des repas, de ne pas se soigner, de bosser en plus de ses études. Donc la précarité, on la voit tout le temps. Et en tant que syndicaliste, on voit des cas qui sont vraiment horribles. L'année dernière, on a eu des gens qui étaient à la rue, en fait, parce que le CROUS ne voulait pas les aider et ne pouvait pas les aider. Donc on s'est retrouvés à en héberger certains pour éviter qu'ils dorment dehors, en fait, en plein automne, en plein hiver. Des étudiants qui sont en détresse, il y en a énormément. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Il y en a beaucoup qui arrêtent les études et puis on ne le sait pas, en fait, qui ne vont pas bien et qui sont en détresse. Il y en a qui font des tentatives de suicide. C'est deux fois plus, je crois, d'étudiants qui se suicident que par rapport à la classe d'âge des 15-30 ans. C'est pas ma faute à moi si je suis en galère et que mes parents ils n'ont pas beaucoup d'argent ou qu'ils ne peuvent pas m'aider ou que j'ai du mal à trouver un boulot et réussir mes études. Bah non, en fait, c'est un problème systémique et c'est pas un problème individuel. C'est pas nous c'est pas notre faute si on est pauvre ou on est en galère. C'est la faute collectivement de l'État, des gouvernements qui nous permettent pas d'assurer les moyens pour qu'on puisse vivre et étudier de façon décente, en fait.
Ces dernières années, on a beaucoup parlé de violence. Celle dans la bouche de nos gouvernants concerne les manifestations, les vitrines cassées, les pavés lancés, et jamais les blessés ou tués d'en face, ni la violence sociale. La violence sociale, c'est celle qui frappe les plus précaires, celle qui concerne désormais des milliers, voire des millions de femmes et d'hommes. La violence sociale est le plus souvent invisible, niée par certains, passée sous silence ou vue comme un fléau inéluctable qui touche ceux qui n'auraient pas fait assez d'efforts et qui n'auraient pas assez le mérite pour s'en sortir. Son geste ultime, notre camarade, son geste de détresse, a mis la lumière sur cette précarité qu'il subissait et celle de milliers d'étudiants et d'étudiantes. Il a aussi pointé les responsabilités, parce que ce système capitaliste, ces politiques néolibérales qui assèchent les aides sociales, détruisent les services publics, la sécu, et accentuent tous les jours les inégalités sociales, ces politiques-là sont menées par nos gouvernants depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes profondément tristes, nous sommes aussi en colère, plus que jamais. La précarité tue. Mais notre détermination à lutter contre ces politiques mortifères est décuplée par le message de notre camarade. Demain, nous serons en lutte et dans la rue, plus que jamais.
Je m'appelle Juliette.
Tu es étudiante?
Oui.
En quoi?
Je suis en master de lettres modernes. Je suis là aujourd'hui parce que je trouve ça important de soutenir un camarade qui a tenté d'attenter à sa vie. Et aussi parce que je pense que on changera rien sans action collective et sans rassemblement de tous les étudiants qui sont touchés par les mesures criminelles de Macron et de son gouvernement, en fait, contre les jeunes. Et je suis solidaire de mes camarades boursiers, parce que je suis pas boursière moi-même, mais je pense que c'est des mesures qui touchent d'abord les boursiers et le traitement qui est... Enfin, je trouve inadmissible, en fait, le traitement qui est imposé aux étudiants qui n'ont pas les moyens de payer leurs études, de financer leurs études.
Témoignez que vous soyez étudiante et étudiant, que vous soyez travailleur ou travailleuse, que vous soyez au chômage. Vraiment témoignez. Le hashtag la précarité tue a été top tendance ce week-end. Vraiment témoignez et adressez-vous à vos syndicats.
Et oui, et du coup, comme vous l'avez entendu dans le reportage et comme on vous l'a dit en début d'émission, les étudiants et les étudiantes se mobilisent pour dénoncer la précarité et suite du coup à l'immolation de leurs camarades. Et au cours de cette mobilisation, hier, une étudiante de Lyon 2 a été embarquée par la police pour ne pas avoir présenté sa carte étudiante. Il y a un appel à témoins, donc je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. Suite au barrage de sécurité mis en place à cause des récentes manifestations sur le campus des Berges du Rhône, donc une étudiante de Lyon 2 en troisième année de LEA s'est présentée au premier barrage pour le contrôle de sa carte étudiante. N'arrivant pas à la sortir de son porte-monnaie, elle a demandé de l'aide à l'agent de sécurité, qui a donc vérifié sa carte et l'a laissée rentrer. Une fois entré, un deuxième agent a refusé la laisser passer, puisqu'il n'aurait pas vu sa carte correctement. Elle lui a alors répondu qu'elle avait déjà montré sa carte et qu'elle était déjà en retard. Il l'a violemment poussée pour l'empêcher d'avancer. Se sentant agressée, elle l'a giflée et insultée. Suite à cela, elle a été enfermée dans un local technique à côté de l'entrée. Ils ont accepté que le professeur avec qui elle avait cours lui parle pendant environ 5 minutes. Le professeur, du coup, lui parle pendant environ 5 minutes. Du coup, les autres étudiants qui étaient là ont ensuite pu assister à leur cours. En sortant, 1h45 plus tard, l'étudiante était toujours enfermée dans le local et demandait de l'aide par message à ses amis. Ses amis sont donc rendus dans le local où on leur a catégoriquement refusé de la voir. Ils ont constaté que la police était alors présente. 5 minutes plus tard, l'attaché de presse de Lyon 2 est venu leur parler avec un ton condescendant et méprisant par rapport à leur âge. C'est à ce moment-là que la police l'a embarqué au commissariat. Une étudiante a été témoin de la scène, mais la police refuse d'écouter son témoignage car il l'estime illégitime, la considérant amie avec la personne qui a été agressée physiquement. Donc les étudiants de Solidaire et les étudiants qui étaient sur place demandent de l'aide à chacun et chacune qui aurait pu être présent sur place. Si quelqu'un était témoin, pour les contacter, vous trouvez leur contact sur Rebellion. Voilà, donc aussi pour vous montrer la violence de l'institution, dès qu'il y a une mobilisation plus que légitime, ça a été de la violence de la ministre qui n'a pu que condamner des violences bien ridicules par rapport aux faits, à la violence des agents de sécurité qui sont aujourd'hui omniprésents sur la fac.
Et on rappellera que les prochaines manifestations qui ont été décidées en AG, c'est le 18 novembre à Lyon, c'est lundi 18 novembre.
Oui.
Lundi 18 novembre à Lyon et le 26 novembre au niveau national, et qu'il y a demain à 13h un rassemblement gilet jaune auquel beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ont prévu de rejoindre, et c'est à 13h place Bellecour demain. Information locale et en bref, Gérard Collomb, maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur, a une petite casserole aux fesses, une histoire d'emploi fictif pour son ex-femme, Meriem, Nouri. C'était avant-hier, la Chambre régionale des comptes a affirmé, suite à enquête, qu'elle n'avait pas d'éléments matériels qui justifiaient l'emploi de Meriem Nouri à la municipalité de Lyon. Il s'agit donc d'une affaire d'emploi fictif. On me coupe mon micro. J'ai dit des bêtises. Non, tout va bien. Alors, pendant 8 ans, Meriem Nouri a occupé un poste de 2010 à 2008 comme agent municipal. Elle avait comme rôle, a priori, d'être fonction d'accueil, sauf que, suite à une plainte et à des perquisitions chez GG en juin, et puis à l'hôtel de ville également, en juin, une enquête donc a été menée, et l'instruction menée par les magistrats a montré qu'il y avait pas de preuves, en tout cas jusqu'à présent, de la présence de cette dame à ce poste. Et en plus, quand les magistrats ont ouvert les ordinateurs de la municipalité, le logiciel notamment des ressources humaines, ils ont remarqué que cette dame, donc l'ex-femme de Gérard Collomb, était la seule des employés à avoir sur son poste 25 heures sup par mois. Alors que les autres ne les avaient pas. Donc en plus de ne pas vraiment faire ce travail, a priori, elle avait en plus des heures sup pour un brut mensuel s'élevant à 2 480 € pour être agent d'accueil. Tout va bien, GG. Voilà. Et puis, autre brève et rien à voir, quoique c'est lié quand même à une décision de la métropole. Et quand on parle de métropole de Lyon, il y a GG pas loin. La métropole de Lyon avait laissé entendre qu'elle cesserait d'apporter de l'aide humanitaire au collège Maurice Sève, squatté sur la Croix-Rousse, où loge depuis un peu plus d'un an des exilés. Il y a un peu plus de 400 personnes. On a le droit de me reprendre si j'ai des bêtises. Et donc il y avait deux, jusqu'à présent, ces derniers mois, deux associations, notamment Notre-Dame des Sans-Abris et l'Alpil, qui donc œuvre pour l'insertion par le logement, qui œuvrait donc au collège Maurice Sève pour soutenir les habitants et habitantes. Voilà, et donc c'est demain, je crois, que ces associations, ou même dès ce soir, demain, c'est demain. ce soir, demain. en tout cas, ne seront plus financés pour agir là-bas et soutenir les habitants et habitantes suite à une décision de la métropole. Et on a aussi crainte, en tout cas c'est ce que j'ai lu, et là aussi on peut me contredire, que la métropole stoppe l'aide qu'elle a apportée pour les livraisons de la banque alimentaire, c'est-à-dire la nourriture. C'est des bêtises ou pas ?
C'est tout à fait vrai.
C'est super. Voilà.
C'est pas vraiment super. Mais...
Oui, c'est pas vraiment super, oui, pardon. Et il y a un dernier point, il y a encore un mois, il y avait une centaine de personnes qui dormaient encore sous le préau de l'ancien collège. Et semble-t-il que des compagnons bâtisseurs ont épaulé les habitants et habitantes et ils ont engagé des travaux qui permettent aujourd'hui de loger à peu près tout le monde dans les bâtiments chauffés. Voilà, on rappelle que la majeure partie des habitants et habitantes sont soit des mineurs isolés, soit des demandeurs d'asile, soit les deux, et que la métropole a l'obligation de les loger. Et une pétition est en ligne contre ces décisions de la métropole. Vous la retrouverez en tapant dans votre moteur de recherche préféré « Jeunes migrants en danger à la Croix-Rousse ».
Et vous pouvez aussi rejoindre le collectif de soutien. Je crois que leur mail, c'est tout simplement collège@riseup.net.
Canu, info.
Et invisible et disponible, libre et irréductible.
Attendu féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu, info du vendredi.
La semaine dernière, on a eu la chance d'accueillir trois personnes du collectif des collèges contre les féminicides de Lyon qui nous ont expliqué, et je trouve de manière très stimulante, comment plus de 200 personnes se regroupent de manière spontanée pour aller coller dans les rues de Lyon la nuit, et de tout ce que ça crée en termes de construction politique. Et voilà. Et voilà, du coup, on a fait cette interview la semaine dernière et il se trouve qu'elles ont continué la discussion en publiant un autre texte en fin de semaine sur le site rebellion.info. On avait donc envie de vous le lire pour continuer cette discussion avec vous. Après l'action Place Bellecour du samedi 9 novembre, au milieu des messages solidaires et chaleureux, quelques mises en cause de celles que nous pensions nos alliés nous ont surprises par leur agressivité. Des membres du groupe Fémicide par compagnon ou ex et certaines colleuses parisiennes reproche aux Lyonnaises leur acception transversale et non excluante des féminicides et leur récuse le droit de citer le décompte des féminicides conjugaux. Donc pour compléter les propos qu'elles ont tenus dans le Canu Info de la semaine dernière, elles ont tenu à redire à celles et ceux qui en doutent ou qui le leur reprochent ce qui les lie et ce qui les motive, et c'est la solidarité féministe.
L'inclusion n'est pas une posture. Elle ne prétend pas éliminer les débats internes au mouvement féministe sur les moyens d'agir, sur l'exploitation qu'ils exercent dans le cadre de la prostitution, sur les usages des questions d'identité en contexte libéral. L'inclusion est une condition et un objectif. Quelle que soit leur position dans la société, les femmes, qu'elles soient nées femmes ou qu'elles soient comptées parmi les femmes, subissent une oppression qui est largement invisibilisée et ainsi maintenue, perpétuée. Se sentir solidaire de toutes les femmes est la condition pour rejoindre le collectif lyonnais contre les féminicides, en plus de partager l'expérience d'être ou d'avoir été une femme. Se sentir plus forte ensemble et contribuer à rendre visibles les violences dont toutes les femmes sont les victimes est le but de toutes. Visibiliser, c'est désinvisibiliser. C'est lutter contre le silence toujours en jouant aux victimes. C'est montrer l'ampleur des dégâts. C'est étaler sur les murs la violence subie, crue, abjecte, menaçante. Parce que les victimes n'en peuvent plus de devoir se taire pour préserver l'ordre social. Il ne saurait être question d'exclure de la communauté des femmes à défendre celles qui sont tuées dans un autre contexte que celui de la violence strictement conjugale. Les personnes trans peuvent être victimes de violences sexistes. Les personnes prostituées peuvent être victimes de violences sexistes. Les femmes qui ne vivent pas en couple peuvent être victimes de violences sexistes. Les très jeunes femmes, les mineures, peuvent être victimes de violences sexistes. Les femmes âgées, parfois malades, peuvent être victimes de violences sexistes. Les femmes lesbiennes peuvent être victimes de violences sexistes.
Les violences sont innombrables. Les catégories sont toujours insuffisantes et même additionnées. Elles oublieraient des victimes isolées, moins considérées, dont les meurtres sont passés sous le radar. 132 féminicides conjugaux au 12 novembre, mais bien plus de femmes tuées et plus de 200 000 victimes de violences conjugales, 800 000 victimes d'insultes sexistes, 3 millions de femmes qui subissent la drague lourde dans l'espace public, 1 million de femmes harcelées, plus de 90 000 femmes victimes de violences sexuelles chaque année. Sans parler de la discrimination au travail, de l'autonomie financière tellement difficile à atteindre, de l'éducation des enfants qui perpétue les inégalités. Et ce sont des meurtres non comptabilisés, des séquelles irréversibles, des plaintes jamais enregistrées, des récits qui sont tus et d'autres qui ne nous parviennent jamais.
Les catégories se recoupent et les violences s'additionnent. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des monceaux de souffrances et des cris et des vies massacrées et des masses d'énergie qu'il faut déployer pour lutter.
Les collectifs collages contre les féminicides se sont mis en place dans le contexte du Grenelle des violences conjugales. Mais de la part des pouvoirs publics, nous n'attendons rien. Les budgets des associations sont reniés, le droit recule et criminalise de moins en moins les auteurs de violences. Les forces de l'ordre sont bien souvent complices en ne protégeant pas les victimes quand elles le demandent. Au mieux, des mesures éviteront une partie de la casse. Depuis des décennies, les associations et les mouvements féministes travaillent à visibiliser le continuum des violences, pointant la façon dont les féminicides sont les manifestations ultimes de processus dans lequel les femmes sont confrontées à des violences multiples contre lesquelles il est particulièrement difficile de se défendre.
Coller des slogans sur les murs, entre femmes, participe de cette volonté de dénoncer les conditions de maintien d'un contexte social, économique et politique qui fragilise et expose toutes les femmes aux violences, qu'elles soient conjugales, physiques et psychologiques, sexuelles, économiques, professionnelles, institutionnelles.
La forme de la répression policière n'est pas anodine. Les agents et agentes qui interpellent les colleuses peinent à comprendre la solidarité spontanée des femmes qui défendent les femmes, toutes les femmes. Sont tracées de frontières sur la base du sexe assigné à la naissance, de la profession, de la religion ou de la classe. Quand ils aperçoivent cette solidarité, ils cherchent à humilier, ridiculiser, diviser les militantes.
Or, ce qui nous lie, c'est la solidarité féministe. C'est le besoin de dire que la manière de remédier aux violences dans notre société ne nous convient pas, que les mesures qui relèvent de la criminalisation, de la judiciarisation, de la psychologisation ne sont pas satisfaisantes et pas suffisantes. Les policiers tardent à intervenir, minimisent les violences, laissent leurs auteurs quitter les commissariats. Les juges, au pénal comme aux affaires familiales, fragilisent la parole des femmes et visent à une pacification qui abandonne les victimes à une brutalité sans fin, quand ils ne sont pas simplement les relais d'une implacable justice de classe. Les psys renvoient inlassablement les victimes à des schémas culpabilisants où elles portent la responsabilité de la paix avec leurs bourreaux. Police, justice et psy ne protègent pas efficacement les femmes, et même quand elles remplissent leur petit office, elles ne suffisent pas à ouvrir la voie à une émancipation collective dont l'urgence est ressentie par tellement d'entre nous.
Contre la répression, les colleuses lyonnaises vont s'organiser, protéger celles qui ont été en première ligne, continuer plus fort, plus nombreuses, plus déterminées. Faire la preuve que la solidarité n'est pas un vain mot. Nombre de collectifs, associations et syndicats locaux les soutiennent. Contre les violences, celles qui recensent patiemment et rigoureusement, celles qui agissent depuis longtemps pour les femmes et celles qui découvrent les luttes féministes, toutes sont utiles. Parce que ce n'est pas le moment de se diviser, parce que défendre une seule catégorie de victimes, c'est encore invisibiliser et contraindre au silence.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et dans la rubrique ce soir, je vais vous parler de deux centrales qui se sont retrouvées très proches de l'épicentre d'un séisme qui a eu lieu ce lundi 11 novembre dans la vallée du Rhône. Donc c'était un peu avant midi. Et donc un séisme de magnitude 5,4 sur une échelle qui en contient 9 a été enregistré au Teil, à environ 10 km à l'ouest de Montélimar, dans la Drôme.
C'est juste en face de Montélimar, c'est juste en face du Rhône.
Voilà. Et donc, qualifié de fort, les vibrations du séisme ont été ressenties de Lyon à Montpellier jusqu'à Grenoble et Saint-Étienne. La centrale nucléaire donc, de Cruas et des installations du Tricastin, qui contient donc des réacteurs, usines et entreposages de déchets, sont à respectivement 15 et 25 km de l'épicentre. Et ces installations ont été conçues sur l'hypothèse d'un niveau de séisme moindre, puisque c'est l'amplitude qui a été retenue pour ces installations, c'est une amplitude de 5,2. Alors pourquoi 5,2? Et bien en fait ce chiffre est obtenu par un savant calcul. On prend le séisme qu'on appelle au maximum historiquement vraisemblable.
Donc bon, voilà. Et on ajoute une marge de sécurité. Donc dans le cas de la région où sont implantées ces deux centrales, ça donne 4,7. C'est le chiffre qui a été retenu pour le maximum historiquement vraisemblable, qu'on rajoute 0,5 pour la marge de sécurité et on obtient le 5,2. Donc là, il y a eu manifestement le maximum historiquement vraisemblable, c'était pas le bon. Mais l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, considère que ces secousses présentent des caractéristiques proches de celles retenues pour les deux centrales. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par proche. Moi, je trouve quand même que 5,2, c'est significativement supérieur à 4,7, surtout quand on parle de séisme. Et puis aussi, on pourrait s'attendre à une réévaluation de ce fameux maximum historiquement vraisemblable et que, par exemple, au lieu de 4,7, ça soit du coup 5,2 qui soit retenu. Mais là, si on fait ça, ben, vous ferez le calcul, mais c'est simple, on obtient une norme qui est plutôt autour de 5,7. Donc voilà. Alors, l'IRSN... c'est en fait tout ça que potentiellement il faut réévaluer ce facteur-là. Mais l'IRSN se contente de glisser uniquement en fin de note qu'il vaut mieux caractériser le séisme du 11 pour décider s'il est nécessaire ou non de réviser le niveau de séisme actuellement appliqué sur ces installations. Donc voilà, donc la réévaluation de ce niveau-là sera pas forcément le cas. Et notamment pourquoi ? Parce que l'IRSN doit évidemment savoir que cette réévaluation peut peser très lourd pour EDF, surtout au vu des casseroles qu'EDF se traîne sur l'état des centrales par rapport au risque sismique. Et du coup, justement, qu'en est-il des centrales ? Alors, selon les exploitants, les premiers contrôles n'ont pas révélé de dégâts, donc on est plutôt... Bon, tant mieux, quoi. Cependant, donc les réacteurs qui étaient en fonctionnement à Cruas ont été mis à l'arrêt en fin de journée. Et étant donné les valeurs enregistrées, des contrôles complémentaires sont nécessaires et l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, déclare qu'elle surveillera les conditions de redémarrage. Alors la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qu'on appelle, que vous devez connaître plus communément sous le nom de CRIRAD, donc CRIRAD, la CRIRAD c'est un organisme en qui on peut faire confiance, contrairement à EDF. Non, c'est pour dire que ce qui communique, c'est plutôt des choses de confiance. Donc, eux, ils sont basés à Valence et ils ont tout un réseau de balises de surveillance et ils confirment que leur réseau donc, n'a pas détecté d'augmentation anormale du niveau de radioactivité dans la vallée du Rhône. Elle souligne cependant les découvertes souvent très tardives et parfois dues au hasard des défauts de résistance au séisme des équipements et des installations nucléaires, et elle ne croit pas si bien dire, puisque par exemple en juin, au Tricastin justement, des défauts de résistance au séisme avaient été trouvés sur le circuit d'alimentation en eau brute, donc qui sert à refroidir tous les équipements auxiliaires et les systèmes de sauvegarde du réacteur. Sauf que ce défaut, en plus de résistance qui a été trouvé au Tricastin, c'est pas juste au Tricastin qu'il a été trouvé, il a été trouvé aussi dans d'autres centrales, à Chinon, à Gravelines, à Belleville. Donc voilà. Juste pour conclure là-dessus, autre petit détail qui a une importance quand même assez forte, c'est que le site de Tricastin est à 6 mètres en dessous du niveau du canal de Donzère. Et la digue censée protéger la zone d'une inondation nécessite encore des travaux de renforcement. Donc voilà, donc on a de très nombreuses anomalies génériques, dont on parle régulièrement dans notre superbe rubrique Canu Info, des mêmes défauts qui concernent la résistance au séisme retrouvée donc sur plusieurs centrales nucléaires, un parc vieillissant, et oui, on sucre donc les fraises chez EDF, mais pour combien de temps encore ?
Merci cher chroniqueur de la radioactivité. Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière.
Canu Info.
La police qui fuit, la police assassine. Qu'est-ce qu'on est proche? Où sont les services? La police mutile.
Alors on avait prévu une rubrique très longue sur les violences policières internationales et françaises, mais on me dit dans l'oreille gauche qu'il faut que j'accélère. Alors, tout d'abord, mardi au Liban, un manifestant a été tué par balle sous les yeux de sa femme et de son fils pendant une manifestation. On vous rappelle que ces manifestations au Liban ont débuté le 17 octobre et que ce sont des manifestations contre la classe politique, contre la corruption, contre leur incurie également, et que par ailleurs l'économie du pays est partiellement bloquée, notamment les banques sont complètement paralysées depuis le 12 novembre. En un mois, par ailleurs, elles n'ont fonctionné que 6 jours. Il est extrêmement difficile de retirer de l'argent, y compris de payer en carte bleue dans les magasins, ce qui n'empêche pas les millionnaires et milliardaires libanais d'envoyer de l'argent à l'étranger, leurs petites économies, ce que les autres Libanais et Libanaises n'ont pas le droit de faire ou plus le droit de faire depuis un mois. Au Chili également, ça pète depuis un peu plus d'un mois contre le président de droite Piñera, son gouvernement et le néolibéralisme qui sévit là-bas depuis plusieurs décennies. Et là-bas aussi, les flics sont ultra violents, peut-être plus que dans les autres pays d'Amérique latine. C'est ce qu'on a souvent lu dans différents médias, en tout cas ces dernières semaines. Les flics sont d'ailleurs accusés de nombreux actes de violence sexuelle, en priorité envers les femmes et les membres de la communauté LGBT. Là aussi, flics sont aussi violents dans la rue. 5 personnes ont été tuées en un mois là-bas, 200 blessés, dont 2000 blessés, pardon, dont 200 gravement blessés à l'œil. Et puis, donc pour les victimes de violences sexuelles, il y en a près d'une centaine qui ont été recensées, sans doute qu'il y en a plus encore, notamment des manifestantes arrêtés et qui sont forcés de se déshabiller complètement dans les locaux de la police, ce qui est tout à fait interdit. Notamment là, cette semaine, le cas d'un homme homosexuel qui a été violé par intrusion d'une matraque là aussi dans les bureaux de la police, et puis des humiliations de femmes lesbiennes qu'on menace de viol correctif, comme ils disent ces flics-là. En Bolivie, non loin du Chili, en Amérique du Sud, vous avez peut-être entendu le fait que Morales a été réélu, Evo Morales, donc, qui était à la tête du pays depuis 10 ans. Il a été réélu, mais son élection a été contestée, ce qui l'a amené à démissionner, ce qui a provoqué des manifestations dans les plus grandes villes du pays. Et avant-hier, un homme de 20 ans a été tué par balle lors de ces manifestations. C'était un manifestant pro-Morales. Voilà, et puis ça nous emmène tout doucement. On aurait pu parler de Hong Kong, mais je n'ai pas fait de recherche, j'ai oublié. Là aussi, vous avez sans doute vu ça au moins en image, le policier qui tire à balles réelles sur un manifestant, 2 jours après la mort d'un autre manifestant qui était poursuivi par la police. Et puis donc tout ça nous amène en France, un an après le mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé donc il y a pile poil un an. Castaner, donc ministre de l'Intérieur, qui valide la ligne dure du maintien de l'ordre en France. Ça, c'est les journalistes de Libération qui nous l'apprennent aujourd'hui, puisqu'ils se sont procurés un document de travail du ministère. Alors, il valide quoi exactement? Il valide l'utilisation des voltigeurs qui sont revenus avec les gilets jaunes. Les voltigeurs, c'est le fait d'avoir un policier qui conduit une moto et puis un autre derrière, qui a souvent une matraque à la main. Et qui vient punir de grands coups les manifestants. Voilà, et qui avait été responsable de la mort de Malik Oussekine à la fin des années 80. Et les voltigeurs avaient été interdits ensuite. Ce qui est validé également par cette doctrine Castaner, c'est d'aller de plus en plus au contact des manifestants et manifestantes pendant ces manifestations pour interpeller le maximum. Et puis évidemment, sont validées l'utilisation du LBD qui a crevé des dizaines et des dizaines de dieux depuis un an de manifestations en France. Et puis les grenades Gli F4 qui contiennent de la TNT et qui ont arraché plusieurs mains également l'année dernière en France. Il n'y a pas un mot dans ce rapport sur les blessés ni sur les contrôles de flics. Tout ceci malgré les mises en garde du Conseil de l'Europe et de l'ONU sur le maintien de l'ordre en France. Voilà. Alors, juste pour un dernier petit bilan, puisque c'est les 1 an de manifestation des Gilets jaunes, il y a eu au total en France 11 000 gardes à vue, 3 000 condamnations et 1 000 condamnations à de la prison ferme. À ceci, on peut ajouter 2 500 blessés et une morte, Zineb Redouane, 80 ans, à Marseille lors de l'acte 3, gazée chez elle par une grenade lacrymogène.
Et on continue dans les nouvelles qui font flipper à l'international et on parle sur la question des algorithmes. Puisqu'on a appris la semaine dernière par un journal qui s'appelle Le Temps, letemps.ch, qui est donc suisse, un petit projet qui a été mis en place en Hollande. Alors ce projet, il s'appelle Siri. Il a été voté il y a 5 ans et à ce moment-là, il a fait peu de bruit. C'est un projet qui vise la chasse aux fraudes aux aides sociales. Comment ça marche ? Alors le but, c'est de regrouper tout un ensemble de données numériques qui étaient avant éparpillées entre différentes administrations. Les municipalités, les autorités fiscales, les agences d'assurance maladie et d'invalidité, le service d'immigration, le ministère des Affaires sociales, etc. Il y a un algorithme qui va croiser tout ça et bip bip, prévenir les services compétents en cas d'anomalie. Jugé comme liberticide jusqu'à un observateur de l'ONU, ce projet de loi qui est maintenant appliqué a donné lieu à une audition par les juges hollandais, audition entre des opposants, des organisations de la société civile et l'État néerlandais. Et plus que de dresser les constats inquiétant de ce projet, c'est assez intéressant de relayer les paroles de l'avocate de l'État néerlandais, puisque elle, pour justifier que ce projet Siri n'est pas dangereux et n'est pas liberticide et qu'il a un bien fondé, a pris un petit exemple. Une personne bénéficie d'une aide pour un logement, mais il y a une faible consommation d'eau dans ce logement. Bip bip bip, anomalie, et donc des inspecteurs de l'État sont saisis pour vérifier que la personne habite bien à la bonne adresse. On apprend par ce petit exemple, donc donné par l'avocate de l'État, que Siri va croiser des données issues des systèmes de protection sociale avec des données de consommation de fluides électriques et d'eau dans les logements. Et donc, on se rend compte, dans le même moment, que les compteurs intelligents sont reliés aux informations sociales, et on se rappelle que ces compteurs intelligents, ils mesurent ce qui se passe dans un appart tous les quarts d'heure. Autant dire que maintenant, on peut suivre les gens à distance. Il y a de nombreuses incertitudes autour de ce projet, notamment car l'État néerlandais refuse de donner des détails pour éviter, toujours selon cette avocate, que les gens qui frauderaient se mettent à utiliser de l'eau pour ne pas qu'on les trouve. Ce qu'on sait pour le moment, en tout cas, et qui est tout aussi inquiétant, c'est que ce projet est appliqué en priorité dans certains quartiers, les quartiers pauvres, à une forte proportion d'habitants d'origine étrangère. Christian Van Ven, qui est un rapporteur de l'ONU, alerte sur ce système et ses mots sont les suivants. Le principal danger qui guette les états-providence numérisés, c'est qu'ils servent uniquement les intérêts d'une élite d'officiels et de compagnies de la tech, tandis que dans le même temps, une sous-classe infortunée, placée sous surveillance constante, vivra une dystopie numérique dans laquelle la moindre déviance sera détectée et punie.
Sois patient, Big Brother te surveille.
Et on passe outre-Atlantique, puisque Big Brother surveille les patients aussi. On a appris ça avec le Wall Street Journal cette semaine. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'un contrat a été mis au jour entre Google et une société qui s'appelle Ascension. Ascension, c'est un des plus gros acteurs de la santé aux États-Unis qui exploite 2600 sites de soins, dont 150 hôpitaux et 50 maisons pour personnes âgées aux États-Unis. Donc ce projet, ce contrat qui a été signé, fait que en fait, des données d'Ascension sont transférées à Google. De quelles données il s'agit ? Des dossiers médicaux complets, bien sûr, avec l'identité des patients, les diagnostics, les résultats d'examen, les antécédents médicaux. Alors le but officiel de Google, bien sûr, c'est d'améliorer les soins grâce à son utilisation de l'intelligence artificielle et Google précise qu'ils font même cela gratuitement. Ils sont vachement sympas. Alors qu'est-ce qui fait scandale ? Ce qui fait scandale déjà, c'est bien sûr que les patients des hôpitaux, des maisons de retraite et de tous ces centres d'Ascension n'ont pas été prévenus, ce qui est légal aux États-Unis puisqu'il y a une loi qui prévoit que les informations peuvent être transférées si le but c'est d'aider à assurer les missions de santé. Ce qui est le cas d'ailleurs, Google, ce qui est tout aussi inquiétant que s'ils n'avaient pas redit des choses, ils ont dit, vous inquiétez pas, on va pas croiser ces données-là avec toutes les autres données qu'on a des consommateurs par Google, c'est-à-dire de toutes les recherches, les adresses mail, YouTube, etc. Au-delà des questions de vie privée, ce qui fait flipper, c'est que tout ça signe le fait que les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, et le numérique de manière générale, avance de plus en plus dans le domaine de la santé. Pour l'instant, sous couvert de gratuité, comme dans ce cas-là, et d'aide pour tout le monde. On doute pourtant de notre côté que Google soit une organisation caritative. D'ailleurs, ils ont investi pas que dans ce projet, ils ont notamment fait un partenariat avec Sanofi autour du traitement du diabète. Sanofi qui est aussi une belle organisation caritative, on le rappelle. Ils ont un projet qui s'appelle Calico, qui est d'une filiale de Google qui vise à lutter contre le vieillissement. Et puis un autre projet, Verily, qui associe des entreprises pharmaceutiques pour améliorer les processus des essais cliniques. Autre signe tout aussi inquiétant de l'avancée du numérique dans nos vies, et des GAFA dans nos vies et dans la santé, c'est que Google a racheté une société Fitbit qui, elle, produit des petits bracelets connectés pour le sport et le bien-être. C'est-à-dire que Google va bientôt pouvoir compiler tout un tas de données au quotidien sur la santé de tout le monde. Petit à petit, les algorithmes s'inséminent dans nos vies, collectent et guident les sphères les plus intimes de nos vies. Le présent semble sceller les bases d'une dystopie à venir.
Ah non, parle-nous.
Est arrivé l'hiver où les hommes à semelles de vente te marchent sur la gueule pour y imprimer leur marque. Toi, tu as le visage du printemps qui s'ignore et qui vient, qui lève dans tes yeux. Toi, tu étais déjà debout.
Ce mantracte est pour toi, pour nous, qui sommes légion et qui avançons avec cette porte ouverte entre nos deux épaules et nos allures d'appel d'air. Longtemps, tu fus l'individu qui crut que tout lui est dû. L'individualiste joliment séquencé, l'individuel, seul contre tous. Ta vie d'hyperlien, d'alien, d'irien, retranché en pépin dans ton grain de raison, sous ta bulle de filtre, parmi ta commune ôté. Dirty, fast cash, disruption dans la startup nation, merdification des tafs, burn-out, robot bore-out, burn-out.
Puisqu'on a tout fait pour nous rendre étrangers au monde, quoi d'étrange à ce que nous voyons, tout le monde comme un étranger.
Faire que nos expériences prennent corps, s'offre le temps, s'ouvre l'espace. Faire que quelque chose, enfin, se passe. Faire qu'il existe toujours un dehors aux eaux libérales qui nous entassent.
Du possible, sinon j'étouffe. Un peu de ciel, un terrif, un brin d'herbe, juste une touffe, un peu d'air.
Comprendre qu'ils te veulent libre pour mieux te contrôler. Que chacun de tes actes laisse une trace sur leur carte. Cours, camarade, les yeux mondes sont derrière toi. Comprendre ton statut d'épluchure pour les pores du Big Data. Comprendre ce qui te séduit, où l'on veut nous conduire, et que nous sommes le produit.
Toujours sur les réseaux, en torero s'effacer. Toujours sur les réseaux, être le zéro. Passé.
Tu ressuscites les angles qu'on croyait morts.
Tu découvres furtif.
Thank you. leur monde est une pub qui te vend la réalité, puisqu'ils t'ont algorithmé jusqu'à l'amour, le jeu, le jouir et l'amitié. Puisqu'en te procurant par la techno le pouvoir, ils t'ont en douce retiré la puissance.
Tu rates. Tente encore. Rate mieux. Tu tâtonnes. Tu rates. Tente encore. Rate mieux. Tu tâtonnes et tu rates. Tente encore. Rate mieux. Tu tâtonnes et tu rates. Tente encore.
Construis. Et nous avec d'autres les communs.
Et au cœur de ce nous, explore à quel point tu es lien.
Politique de l'amitié, s'élever du solitaire au solidaire.
De la grappe au groupe.
Du connectif au collectif.
La liberté des autres déplie la nôtre. Origami. Tu sais bien que s'il pouvait, les numéros traits écrits. Sous leurs chiffres, ta chair luise, ton existence est hors de prix. Rien ne les détruit plus que le gratuit.
Nous sommes la nature qu'on défonce. Nous sommes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Nous sommes le cancer de l'air et des eaux, des sols, des sèves et des sangs. Nous sommes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok. Ok, et maintenant ?
Maintenant ? La seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants.
Maintenant, nous serons la nature qui se défend.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et du Canu Info et vous venez d'entendre un extrait du projet Les Furtifs d'Alain Damasio.
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Eh bien, ce soir, un CAB veut dire les algorithmes et les centrales attisent les blocages. Pour l'agenda, vous voyez bien qu'on n'a pas le temps de vous en parler. Vous trouvez toutes les infos sur Rebellion. Et on vous laisse avec
Noise Pollution.